Attention, ce film n'est pas un film sur le cyclisme. Merci de votre compréhension.
Du suspense. De l'émotion. De l'humour. Sine qua non, du cinéma, sinon rien.
Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Campus Grenoble 90.8 pour l'émission Sine qua non dédiée au cinéma, émission que nous enregistrons en cette toute fin avril et durant laquelle nous parlerons de 11 films, tous sortis entre la mi-mars et ce début avril. Nous reporterons donc les films de la fin avril sur le mois de mai et à mes côtés pour commenter ce riche programme, Jean-Pierre.
Bonjour toutes et tous.
Florence.
Bonjour.
Et Adrien nous rejoindra en cours de route. Comme d'habitude, nous avons fait un programme éclectique de films de différents pays, de différents genres. Et nous allons commencer tout de suite avec une comédie française, c'est Rebelle d'Alan Mauduit.
Question diplôme, je vois un brevet des collèges, une formation en coiffure, question expérience professionnelle, Miss Nord-Pas-de-Calais. Waouh!
Je viens pour la X.
Maman, pourquoi on achète pas la Mini?
Non, on n'a pas les moyens.
Bah, si t'achetais moins de drogue aussi.
Tu vas dégager, oui?
Et où?
Ah! C'est nous qu'on n'a pas payé le loyer, c'est nous qui avons tort! Tu peux comprendre ça?
Et tu peux commencer quand?
Tout de suite. Ah, putain!
Ça va?
Quel enfer!
Attends de nettoyer la machine ce soir.
Hein. Ouais, bah ça sera sans moi.
T'as toujours été une pétasse.
T'es vraiment canon, tu sais.
Ah! Donne-moi mon sel.
Il y a combien là-dedans? Il est mort.
Oh, on a bien vu, merci.
Le problème, c'est qu'il faudrait le sortir d'ici.
On peut le sortir petit à petit, hein. Bah quoi? C'est notre boulot de faire des boîtes. Jean-Mi ou un macro, c'est pareil, non?
Jean-Mi a disparu avec le pognon des Belges.
Pourquoi tu leur as pas dit?
T'es con ou quoi? Tu veux qu'il fasse des frites avec ma bite?
C'est quoi tout ce fric?
C'est rien, Dylan, va te recoucher.
Faut vraiment te calmer, hein.
Dis donc!
Voilà, c'était la bande-annonce de Rebelle, premier film en solo d'Alan Mauduit qui avait réalisé Vilaine il y a 10 ans avec Jean-Patrick Benesse. Là, vous avez peut-être reconnu leur voix. Cécile de France, Yolande Moreau et Audrey Lamy incarnent des ouvrières d'une conserverie. Elles mettent en conserve les maquereaux. Donc, on est à Boulogne-sur-Mer, dans le nord de la France. L'une d'entre elles, incarnée par Cécile de France, est une ex-Miss France qui vient de revenir chez sa mère suite à une déconvenue sentimentale. Et donc, elle intègre tout juste l'équipe de travailleuses. Et donc, très vite, elle se retrouve toutes les trois avec un sac plein de billets suite au meurtre accidentel de leur contremaître. S'ensuit un film assez déjanté sur le modèle des films de gangsters où on a des cavales avec... une bande de rebelles qui a tout un magot en main. Sauf que là, c'est une franche comédie qui est très burlesque, très fantaisiste, pas très crédible, mais ce n'est pas le but. Donc après tout, on s'en moque. Moi, j'ai passé un très bon moment, j'ai ri, je me suis vraiment détendue, divertie et je suis ressortie avec le sourire. Donc pour moi, c'est une réussite. Florence.
Bah pour moi aussi, moi c'était mon coup de cœur du mois, donc je m'y attendais pas du tout parce que la bande annonce, je trouve qu'elle donne pas envie. Enfin, je sais pas ce que vous en aurez pensé en l'entendant, mais voilà, le scénario est complètement invraisemblable, les personnages sont extrêmement caricaturaux et pourtant ça marche. Je trouve que ça fait un peu un Tarantino à la française. J'ai adoré. On est vraiment captivé par le film tout le long, c'est bien rythmé, les personnages sont très forts. Enfin, vraiment, moi, je vous le recommande chaudement. Donc vraiment, ouais, bon film pour moi.
Bon, bah 2/2, Jean-Pierre ?
Ah bah 3/3, parce que c'est vrai que c'est... moi, je suis un peu rétif devant les comédies françaises. J'y suis allé à reculons, mais là, j'ai vraiment ri de bon cœur pendant une bonne partie du film, ce qui arrive rarement. Alors, il y a des tas, c'est un peu Tarantino, ça peut faire penser parfois aux comédies policières italiennes des années 60, avec Dino Risi et des gens comme ça. Il y a des séquences très très drôles avec notamment la bite coupée baladeuse dans un Kleenex qu'on retrouve comme ça sur des bureaux et dans différents endroits. Il y a à la fin une bataille très tarantinesque effectivement dans un lieu clos à coups de pistolet. Il y a un petit côté d'émotion avec le père de Cécile de France là, qui est joué par
qu'on
Simon.
Ne révélera
non,
pas.
Non, mais qui est joué par Simon Apkarian, qui est toujours excellent.
Et ben voilà, ça
excellent.
Y est, merci Jean-Pierre.
Ah bah, alors, on n'a pas le droit de dire l'acteur qui interprète tel rôle. Ah bah zut, alors. Et voilà, et donc même les ruptures de ton, les changements de ton sont très bien assumés. Et donc c'est effectivement le film du mois, je ne sais pas, mais c'est une excellente comédie française qu'on aurait plaisir effectivement à revoir. On rirait tout autant, j'en suis sûr.
Eh bien écoutez, voilà, si vous voulez un petit peu de légèreté et de fantaisie, vous pouvez aller voir Rebelle d'Alain Mauduit qui est encore programmée à la Nef. On va enchaîner avec une autre comédie française, quoiqu'elle est dans un ton un petit peu plus doux amer. C'est le film de Lisa Azuelos, Mon bébé.
Arrête de me filmer, c'est quoi ce nouveau délire ?
Je me fais des souvenirs.
Pourquoi ?
Pour quand tu seras partie. Tu sais qu'elle est acceptée, ta sœur.
Où ?
Bah, au Canada.
Ah cool, c'est bien.
Non mais elle va te manquer, hein, crois pas. Hein.
Maman, arrête de filmer.
Et moi, pourquoi tu me filmais pas ?
Oh, la fatigue. Pff. C'est juste que quand t'es partie, il m'en restait deux à la maison. Là, elle part, je suis toute seule. C'est pas tellement la même sensation, quoi.
Non, t'en avais rien à foutre de moi, en fait.
Oh, tu m'emmerdes ! Non mais l'ingratitude !
Salut !
Nous, on est là pour tout, pour tout, pour tout ! Vous voulez de l'aide pour la fumette ou comment ça se passe ? Non, tu sors pas, chérie. Bonne nuit.
T'es irresponsable ! Je suis affolée, là !
Je vais m'inscrire à Tinder.
Et t'es totalement folle.
C'est quoi ton prénom ?
Je m'appelle Héloïse.
Il m'attend là-bas.
Te retourne pas !
T'es beaucoup trop belle pour ça.
Je suis trop belle, en attendant, j'ai pas de mec.
Ça, c'est parce que tu nous aimes trop, tu vois. Ça prend de la place.
Allez, on va danser, vite !
Combien de fois je vais te le dire ? Barre-toi !
Ça, c'est pas facile hein, pour moi de te quitter, maman. De quitter mon frère, ma sœur, ma ville, mes amis. Tu vas dormir ici.
Ah bon, d'accord. Bah bonne nuit les enfants. Enfin les grands.
Maman, hein. C'est mon rêve.
Oui, et bah écoute, moi mon rêve, tu vois, c'était d'épouser Georges Clooney et ça se fera pas.
Mon bébé, le 7e film de Lisa Azuelos que l'on connaît pour LOL, pour Une rencontre, des films souvent centrés sur des histoires de famille, de relations amoureuses, relations parents-enfants, relations amicales, etc. Elle avait également réalisé Dalida, le biopic sur la chanteuse. Ici, elle revient à cette veine, c'est autobiographique, puisqu'elle s'est inspirée du départ de sa fille de la maison pour raconter l'histoire de cette mère, Héloïse, incarnée par l'excellente Sandrine Kiberlin, qui voit sa petite dernière, son troisième enfant, sa deuxième fille, partir de la maison. C'est l'année où elle passe son bac, elle est prise pour faire ses études au Canada et bah évidemment elle a peur du vide parce qu'elle va se retrouver seule dans son appartement, elle est séparée de son conjoint, elle n'est pas en couple et puis en même temps bah, ça représente la fin d'une période, la fin de l'enfance de ses enfants. Donc il y a beaucoup de flashbacks dans le film qui montrent les enfants petits, bébés même, qui montrent le regard attendri de cette mère sur eux, qui les voit grandir et évidemment qui ne peut rien faire, c'est le temps qui passe, hein. D'où le côté assez nostalgique et un petit peu triste de cette comédie qui reste quand même une comédie avec des scènes franchement drôles, qui fonctionne très bien grâce à Sandrine Kiberlin, que je trouve encore une fois excellente. Et décidément, dans le registre de la comédie, elle le prouve de plus en plus. Elle a d'ailleurs obtenu le prix d'interprétation au Festival de l'Alpe d'Huez pour ce rôle. Le film lui-même a eu le grand prix du Festival de comédie de l'Alpe d'Huez cette année. Donc moi, voilà, je trouve que c'est une réussite. Je trouve qu'on s'y retrouve, on s'y reconnaît, qu'on soit parent ou juste enfant de ses parents. Il y a plein de situations auxquelles on s'identifie. Et encore une fois aussi, plein de scènes qui font rire ou sourire, avec des répliques qui font mouche. Et voilà, moi, j'ai encore passé un très bon moment devant cette comédie française. Est-ce que Florence sera de mon avis ?
Je te suis avec un peu moins d'enthousiasme quand même, mais j'ai trouvé que c'était un très bon film. En effet, j'ai trouvé que Sandrine Kiberlin joue vraiment très bien, c'est toujours très juste. Après, pour moi, c'est plus une tranche de vie qu'une comédie, où on va plutôt suivre le quotidien de cette famille. Et j'ai trouvé justement qu'ils étaient très attachants, tous ces personnages, et qu'on est vraiment en empathie complète avec la mère de famille, où on comprend tout à fait son point de vue. C'est très bien amené d'ailleurs, avec des très grosses ficelles, mais qui passent bien. Par exemple, quand on voit sa fille qui part avec son petit ami dans sa chambre, et on la voit, elle, qui le voit partir en petite fille avec son nounours qu'elle tient par la main. C'est... Enfin, voilà, on voit vraiment comment... enfin, le monde avec ses yeux. Et j'ai trouvé que c'était très bien amené. Donc, c'est très doux, très juste et très actuel. Vraiment très ancré dans le temps, dans l'époque d'aujourd'hui.
Voilà, filmé à Paris avec la toile de fond, évidemment, de cette ville magnifique, hein, qu'on voit dans plusieurs scènes, y compris des scènes de nuit au bord de la Seine. Ou... Effectivement, donc ce film, Jean-Pierre l'a boudé, parce que un peu comédie
française. Le titre lui-même m'a fait fuir,
oui, mais alors
je
pas
vous
trop.
Avoue.
Peut-être que tu aurais ri aussi, tu vois. Peut-être que tu aurais été attendri.
Attendri, je sais pas. Mais enfin,
bon, écoutez, en tout cas, nous vous le recommandons. C'est Mon bébé de Lisa Zuelos. Alors que dans mes dernières recherches, je n'ai pas trouvé à l'affiche à Grenoble et dans l'agglomération, mais Gaîté. Parce que parfois, ça ressort dans les petits ciné de l'aglo. Donc, Mon bébé de Lisa Azuelos. On enchaîne avec encore un film français, mais d'un autre genre. C'est le dernier film de Benoît Jacquot, Dernier amour.
C'est votre premier séjour à Londres,
monsieur Casanova.
Premier séjour.
On m'avait dit que tu étais à Paris.
À Paris, à Genève, à Vienne.
Les femmes.
Les femmes, oui. J'ai toujours été l'ami de toutes. Sauf une. Vous la connaissez donc. Elle est très connue.
Venez vous asseoir à côté de moi. Vous êtes raide dans votre fauteuil. Je ne suis pas fréquentable. Pourquoi faites-vous comme si je l'étais ?
Moi non plus, je ne suis pas fréquentable. Qu'y a-t-il de si infréquentable chez vous ?
Vous le savez, à moi, on ne fait pas la cour.
M'autoriseriez-vous à vous faire la cour ?
Vous seriez capable de vous comporter en fiancé ?
Vous la gâtez, elle va devenir insupportable.
Elles sont magnifiques. J'ai envie de vous. Vous avez été un fiancé adorable. N'allez pas tout cacher maintenant. Vous êtes plus fort que tout le monde.
Je crois que je suis le plus fort.
Parce que vous le pensez vraiment.
Dernier amour est aussi le dernier film en date de Benoît Jacquot. Le précédent, c'était Eva. Je ne sais pas si vous vous le rappelez. Moi, le dernier que j'avais vraiment adoré, c'était Les adieux à la reine en 2011. Donc là, on est de nouveau dans le film d'époque. On est plus précisément au 18e siècle. Casanova arrive à Londres après avoir dû s'exiler. Là, il rencontre une courtisane, la Charpillon, d'origine française, qui lui fait oublier toutes les autres femmes qui lui résistent et du coup, qu'il se met en tête de séduire. Il la désire, mais il semble aussi en tomber amoureux, chose qui ne lui était pas arrivée. C'est ce qu'il raconte, c'est ce que Casanova raconte hein, dans l'histoire de ma vie, dont Benoît Jacquot s'est inspiré, parce que c'est donc un épisode dans lequel, effectivement, Casanova raconte les sentiments qu'il a ressentis, une espèce d'amour-passion. C'est Vincent Lindon qui l'incarne, c'est sa quatrième collaboration ou cinquième collaboration avec Benoît Jacquot. Apparemment, c'est l'acteur qui a demandé au réalisateur d'incarner ce personnage. Benoît Jacquot ne le voyait pas trop en Casanova au départ, finalement il s'est laissé convaincre. J'avoue que j'ai énormément de réserves sur ce film et notamment par rapport à l'interprétation de Vincent Lindon. C'est un acteur que j'adore, mais alors pour moi ça ne marche pas du tout. Quand je le vois arriver avec sa perruque blanche, sa perruque donc à la mode de l'époque hein, sur la tête,
il est pas à la CGT,
qu'il a une
là,
serpillière mais... qui lui a été posée un peu n'importe comment sur le haut du crâne. Voilà, je trouve qu'il a un côté très massif, un peu rustre, qui correspond pas du tout au personnage raffiné de Casanova. Donc ça m'a beaucoup gênée. J'ai eu du mal vraiment à y croire. Et puis alors en plus j'ai trouvé le film bon très joli, mais alors très poussiéreux, quoi. Vraiment le film historique avec tous les défauts que ce genre peut avoir. c'est-à-dire un petit peu trop guindé. J'ai trouvé que pour un film sur une histoire de passion amoureuse, avec une courtisane en plus, dans lequel on aurait pu attendre des scènes très sensuelles, j'ai trouvé que c'était très froid. Et du coup, voilà, l'histoire ne m'a pas du tout passionnée. Je me suis même ennuyée à plusieurs moments. Alors, la petite Stacy Martin est très bien, elle, dans le rôle de la Charpillon, hein, très charmante. Je ne peux pas dire non plus que c'est un bide. Hein. C'est quand même, encore une fois, une belle réalisation assez soignée, mais voilà, qui m'a laissé de marbre. Jean-Pierre fait des yeux...
Je fais des yeux laser. Surpris. Oui, c'est vrai que je vais me permettre de ne pas être d'accord avec toi. Pas tout à fait, en tout cas.
Allez, tu as le droit.
Parce que d'une part, mais j'espère bien quand même, sinon je m'en vais. Hein. Le film, je ne trouve pas qu'il soit poussiéreux. C'est vrai que c'est un film d'époque, mais qui est très correctement réalisé, costumé, décoré, etc. Alors, le problème, c'est vrai que c'est Vincent Lindon. Alors, moi, si j'ai bien calculé, parce que je suis très... très pointu sur l'historique, hein, l'historique réel. On commence effectivement, alors que Casanova est vieux, ça se passe en 1793, il a son dernier poste dans un château en Bohême, et il dit voilà ce qui s'est passé 20 ans avant.
Voilà, et tout le film est en flashback.
20 ans avant, c'est 1773. En 1773, Casanova a 38 ans, ce qui n'est pas exactement, effectivement, l'âge de Casanova. Tu me diras, on n'est pas obligé de le savoir, mais c'est vrai que ceci dit, et cette réticence faite, moi j'ai trouvé que c'était quand même assez prenant de voir cet homme, ce vieil homme, dans le film, mais pas dans la réalité, se faire balader par ce qui est une putain, quand même, une cocotte, quoi. Et ce qu'on se demande aussi pourquoi, c'est pourquoi, puisqu'elle se fait payer pour avoir une relation... avec des hommes, pourquoi elle refuse Casanova? Ça, c'est pas très bien expliqué, on le comprend pas très bien. Mais
ah,
moi.
Oui, il m'a semblé que c'est parce qu'elle se lance aussi une sorte de défi avec lui.
Oui, peut-être, mais enfin, bon, là, moi, j'ai pas trouvé. Je trouvais qu'il manquait un petit peu quelque chose, mais j'ai trouvé le film quand même assez charmant, assez joli. De toute façon, j'aime bien Benoît Jacquot, qui est le seul digne successeur de Truffaut. Donc, moi, je trouve. Pas que c'est un grand film, mais je suis loin d'avoir tes réticences.
Il n'y a que l'âge de l'acteur qui te gêne. Lindon, sinon en Casanova, pourquoi pas?
Pourquoi pas si il était repoussé plus loin dans le temps et que ce soit un Casanova vieux. Mais là, effectivement, ça ne devrait pas être le cas, mais tant pis. Hein.
Bon, bah, écoute, je suis contente que quelqu'un le défende hein, en même temps, parce que c'est un réalisateur que j'aime bien, même si ce film-là m'a déçue. Donc, on ne vous le déconseille pas, si vous avez envie de le découvrir. C'est Dernier amour de Benoît Jacquot. Alors là encore, en cette fin avril, je ne l'ai pas vu à l'affiche, mais peut-être que vous le retrouverez sur un cinéma de l'agglomération prochainement. Donc, guettez les programmes. Allez, cette fois, on change radicalement de genre, de pays, et on passe à un film américain, film d'horreur, d'épouvante. Il s'agit de Us de Jordan Peele.
Tu sais comme le hasard organise curieusement les choses. Les coïncidences. Depuis qu'on est arrivé, il y en a de plus. En plus, c'est comme s'il y avait un nuage noir au-dessus de nous.
Il y a une famille dans notre allée.
C'est qui ça?
Cours.
Mais qui êtes-vous?
Ils sont nous.
Ouh là là, ça fait peur, rien qu'à écouter la bande-annonce. C'est donc Us de Jordan Peele, à qui l'on devait Get Out. Je ne sais pas si vous vous rappelez ce thriller, voire film d'horreur aussi sur fond de racisme. Là, on change de sujet. C'est l'histoire d'une femme qui va passer ses vacances avec son mari et ses deux enfants dans une villa de Santa Cruz, donc côte californienne. Villa qui est sa maison d'enfance. Et là, un traumatisme refait surface. Il y a une série d'étranges coïncidences. Cette mère de famille se retrouve paranoïaque parce que elle et les membres de sa famille vont devoir affronter leur propre double. Voilà le sujet de ce film que je n'ai pas vu, mais sur lequel je suis sûre, Adrien et Jean-Pierre seront en désaccord. Adrien,
pas sûr.
J'aurais préféré laisser la place aux spécialistes du fantastique et de l'horreur avant de parler.
Eh bien, ils se font des politesses, ah, Jean-Pierre. Non, mais
je veux bien, oui, oui. C'est vrai que c'est un film d'horreur, mais qui a son côté social, ce qui n'étonne pas de Jordan Peele, hein, qui est un réalisateur noir et qui tourne qu'avec des noirs. Alors, l'ambiguïté de ce film, c'est qu'effectivement, cette famille est envahie par leur double. Alors, au début, on ne sait pas ce que c'est du tout, ces doubles. Et là, ça fonctionne très bien, parce que c'est assez insidieux. Ces gens qui leur ressemblent parfaitement s'installent, deviennent de plus en plus cruels jusqu'à vouloir les tuer. Ils s'en échappent. Bon,
mais on ne saura pas s'ils meurent ou non à la fin, Jean-Pierre.
Je ne vais pas continuer à déblatérer sur le film. Il y a un petit problème, c'est que si ce film en était resté un simple film d'horreur, je trouve qu'il aurait très bien fonctionné. Là, on sent que Jordan Peele a voulu y mettre quelque chose, a voulu revenir sur le racisme, ce qui est un peu ambigu parce que tous les personnages sont noirs. Alors, est-ce qu'il a voulu dire que la famille d'Adelaide et Gabe Wilson sont des donc le Tom, parce que c'est des gens très intégrés, plutôt riches, de la classe moyenne supérieure. Donc, on ne sait pas trop. Et à la fin, ça tourne un peu au film de zombies quand même. Alors, ça change un peu de genre. Et là, on est plutôt désarçonné. Mais au premier degré, on marche quand même et on a sérieusement peur, surtout au début.
Donc ça marche. Adrien ?
Ça marche énormément et tu as oublié de dire qu'en plus d'être un film d'horreur et un film social, Get Out était aussi une comédie et Us est aussi une comédie. Il y a beaucoup de moments très drôles, mais je suis tout à fait d'accord avec Jean-Pierre. En fait, c'est pas tant sur la critique sociale parce que le film serait resté un film d'horreur en étant que le massacre dans les deux maisons. Ça aurait très bien tenu, mais à la fin, il y a une explication et la critique sociale aurait été là parce qu'on voit la différence entre la famille blanche et la famille noire, leur différence d'objets qu'ils ont dans la maison, leur rapport à la société de consommation, c'est très intelligemment fait, mais à partir du moment où on sort des maisons et où le jeu de massacre s'arrête pour une explication fumeuse complètement débile, le film fait pshhh. Alors que Get Out marchait totalement. Alors, il y a l'effet de surprise en moins parce que maintenant, on connaît Jordan Peele et on l'attend au tournant. Mais la première partie, disons la première heure et quart, est réjouissante. Vous allez vous éclater. Vous allez tout le temps vous demander comment va être massacrée la personne suivante. C'est très bien et c'est assez...
C'est hilarant, quoi.
Avoir en famille à partir de 14 ans.
Vous rigolerez devant tous ces meurtres.
Et puis aussi, il y a quelque chose de très sympa. C'est... toutes les références culturelles qu'il y a avec le lapin blanc, le t-shirt de Thriller. Alors pourquoi l'enfant a un t-shirt de Thriller dans la première partie du film ? Bref, on peut divaguer sur le film et faire plein d'analyses. C'est génial, c'est hyper méta. Allez-y, sauf la fin qui est un peu décevante, mais sinon c'est très bien.
C'est vrai qu'il s'est filmé, Jordan Peele s'est très bien réalisé. Il y a notamment une ou deux séquences vers la fin qui sont spectaculaires avec une file de gens qui se donnent la main. Je ne vais pas en dire plus.
Ah, ça y est, ils nous ont tout raconté.
Mais non, mais on ne sait pas du tout.
Finalement, une fois n'est pas coutume, ils sont d'accord. Donc, nous vous conseillons d'aller le voir, Us de Jordan Peele, qui passe encore à la nef. Changement de genre encore avec un film français de Claire Burger, C'est ça l'amour.
Bonjour, vous êtes bien sur la messagerie d'Armel. Laissez-moi un message et je vous rappelle.
Excuse-moi de te rappeler encore, c'est pour parler des filles. Tout va bien, t'inquiète pas, je gère. En ce moment, je les trouve un peu agitées.
Tu m'étonnes que maman se casse avec un rôle pareil. Malade ou quoi ? Elle peut éviter le show public pour une fois ou pas ?
Quoi ?
Je ramène la famille parfaite.
Arrête de parler fort, s'il te plaît.
Pourquoi tu mets ça ?
Parce qu'il y a l'odeur de maman dessus. Faut pas que tu t'inquiètes.
Repose-toi de moi, d'accord ? Moi, je m'occupe des petites.
Je reste joignable pour vous.
C'est cool, la vie sans nom ? Tu kiffes au bar et tout, tu fais la fête ?
Je peux pas parler comme ça, Nicky.
Bah si. Si, moi, toutes ces histoires de mecs, être en couple, ça me plaît pas du tout.
Servir des filles pour me faire culpabiliser.
J'y arrive pas sans toi.
Si je suis green, ça te fait quoi ?
Tu sais pas ce que t'es.
Mais ta gueule, connard !
Mais tu vas aller où ?
N'importe où. Je vais plaisir avec toi.
Tu cherches quoi quand tu fais ça, Frida ? Tu cherches quoi ?
Toute la vie, c'est vous aimer.
C'est ça l'amour de la réalisatrice française Claire Burger. C'est encore un film dans lequel elle s'est un petit peu inspirée de sa vie, notamment là de la séparation de ses parents. Elle aime bien travailler à partir d'un matériau autobiographique. Et puis, elle aime bien travailler aussi sur des lieux qu'elle connaît, avec des gens qui ne sont pas forcément des acteurs professionnels. C'était le cas dans Party Girl, que j'avais beaucoup aimé d'elle. Là, elle travaille avec des acteurs professionnels, puisque c'est Bully Lanners qui a le rôle principal d'un homme quitté par sa femme, qui pense qu'elle va peut-être revenir. Nous, les spectateurs, comprenons assez vite que non, mais que lui est dans le déni. Et il se retrouve seul avec ses deux filles à la maison, ses filles de 14 et 17 ans, donc grandes filles déjà, qui vivent, elles, leurs premières histoires d'amour, qui se cherchent et qui, en même temps, ont du mal aussi à affronter la situation, à voir leur père désemparé. Donc c'est un film qui, on pourrait le dire, est déjà vu, hein, des histoires d'amour, de séparation, de relations parents-enfants, d'adolescence, on en a vu à l'appel, mais voilà, moi ça m'a plu, j'ai trouvé que ça sonnait juste, j'ai trouvé Bully Lanners très attendrissant, et puis il y a un petit truc en plus, je trouve qu'il donne du dynamisme au film et qui m'a bien plu, c'est le fait que ce personnage participe à un spectacle, un peu, pas interactif, mais un spectacle qui se construit avec les réalisateurs et des gens d'un village qui décident de tous participer au spectacle, de raconter un peu leur vie et de trouver une phrase qui les résume. Et donc, on voit toutes les étapes, toutes les répétitions. Ça s'appelle Atlas. C'est un spectacle qui existe vraiment, hein, qui est mis en scène par Anna Borralo et Joao Galante. Spectacle que la réalisatrice avait vu à Nanterre il y a quelques années. Et donc, c'est assez intéressant parce que c'est des moments de rencontre où chacun se raconte un peu et on voit le spectacle qui se construit petit à petit au fil du film. Et qui finalement en même temps va servir de thérapie au personnage de Bully Lanners qui va pouvoir justement exorciser un petit peu cette déception sentimentale au fil des répétitions. Donc voilà, moi c'est un des films que j'ai bien aimé ce mois-ci. Florence.
Moi j'ai bien aimé, mais je suis un peu moins emballée. J'ai trouvé que on suivait ces quatre individus qui avaient tous des aspirations différentes en fait, que ce soit les trois filles, enfin les deux filles et la femme. Chacune est concentrée sur ses histoires d'amour. Lui, il veut juste retrouver son ex-femme. Enfin, ça fait un peu que des objectifs individuels et on les suit qui essaient de vivre ensemble. Enfin, ça m'a un peu gênée, même si en même temps c'était le sujet du film. Mais pour ce qui était des histoires de pères célibataires, j'avais préféré le film Cigarette et chocolat chaud qui était sorti en 2016 de Sophie Rennes avec oui. Gustave Kervern, qui lui était pour moi beaucoup plus abouti, qui traitait le sujet beaucoup plus en profondeur. Mais après, oui. C'est autre chose, encore une fois. Mais...
Je l'avais trouvé meilleur aussi. C'est vrai que c'est vraiment le même scénario de départ. Le voilà. Père seul avec ses enfants.
Mais après, en effet, ils choisissent des chemins différents. On voit aussi que Bully Lanners gère beaucoup mieux son rôle de père. Donc, il n'est pas dans la même situation de désespoir, on va dire, que Gustave Kervern dans l'autre film. Donc, c'est très différent également, évidemment, mais...
Moi, j'ai trouvé la relation père-fille assez touchante et quand même assez importante. J'ai pas trouvé qu'on suivait que des individus les uns à côté des autres, mais bon.
Ouais. Oui, on voit quand même qu'ils sont attachés, mais ouais. Bon, ouais, je sais pas, la magie a pas vraiment pris pour moi.
D'accord, bon, eh bien, écoutez, c'est le film de Claire Burger, C'est ça l'amour, que vous pouvez encore voir au Pathé Chirol ou dans les cinémas de Vizille ou Villar-Bonneau. Il est encore programmé là-bas. Voilà, on enchaîne avec la grosse sortie du mois dernier, c'est le Dumbo de Tim Burton.
Bienvenue, bébé Dumbo. On fait tous partie de la même famille. Du plus petit au plus grand.
Vous possédez quelque chose de très rare. Un mélange de merveilleux. Mystère. De magie. Wow. Venez avec moi. Ensemble, sur les ailes de cet éléphant, nous irons très loin.
Que se passe-t-il? Où l'emmène-t-il?
Conduis Dumbo à l'intérieur.
Mais c'est sa mère. Fais quelque chose. Il a besoin de nous. Regarde-moi. Nous ramènerons ta maman à la maison.
Dumbo, Dumbo de Tim Burton, c'est une adaptation en prise de vue réelle du dessin animé de 1941, des studios Disney déjà. Tim Burton a travaillé pour Disney dans ses débuts, et puis même par la suite, hein, Alice au Pays des Merveilles ou Frankenweenie, c'était déjà lui qui les avait réalisés. Vous connaissez tous l'histoire de ce petit éléphant qui naît avec des oreilles trop grandes, dont tout le monde se moque, mais comme bien souvent dans ce genre de conte moralisateur, son défaut va s'avérer être un atout puisqu'il va arriver à voler. Donc évidemment, ce n'est pas que l'histoire de ce petit éléphant, c'est aussi l'histoire de la famille autour de lui qui l'accueille dans un cirque, petit cirque qui va être racheté par un plus gros, par un parc d'attractions, dans lequel la famille, donc le père incarné par Colin Farrell et les deux enfants vont essayer de protéger le petit éléphanto, séparé de sa mère qu'ils vont l'aider à retrouver. Peut-être que vous l'entendez à mon ton, pour moi c'est très enfantin, très naïf, alors pourquoi pas, c'est très bien fait, c'est beau. Il n'y a vraiment rien à redire sur le dessin de Dumbo entièrement créé par ordinateur, sur les décors. Les interprètes sont très bien. Danny DeVito en petit patron de cirque est très bien, comme d'habitude, dans les Tim Burton. Mais voilà, moi, je n'ai pas adhéré. C'est vraiment trop enfantin à mon goût, trop gentil à mon goût. Voilà. Bon, Jean-Pierre et Florence ont l'air dépités.
Je suis un peu de ton avis. C'est vrai que Tim Burton, depuis quelques films, il a pas retrouvé l'énergie qui était la sienne dans Mars Attacks, par exemple, dans Edward aux mains d'argent. C'est le moins qu'on puisse dire. Et il y a un aspect curieux chez lui, c'est cette espèce d'amour-haine envers Disney, où effectivement, il a travaillé à ses débuts, il en était plus ou moins foutu à la porte. Puis il est revenu par la bande en adoptant des grands dessins animés comme Alice au Pays des Merveilles, qui était très bien, par contre. Et cette fois, Dumbo. Alors, évidemment, Dumbo, c'est charmant, c'est gentil, c'est beau, c'est très naïf. Et effectivement, on peut y emmener ses enfants, comme pour Us, d'ailleurs, entre 2 et 3 ans. Et il n'y a rien à dire, ni dans le négatif, ni dans le positif, quoi. Et moi, c'est vrai que, qui suis un vieux spectateur des premiers Disney, je préfère le dessin animé, il n'y a pas de doute, quoi. Parce que c'est un petit peu difficile, en image de synthèse, de rendre crédible un éléphant tout pâteau qui vole avec ses oreilles. Alors qu'en image de dessin animé, ça passe beaucoup mieux. Mais bon, d'accord. Alors, il y a tout un petit côté social avec le personnage de Holt Farrier, Corinne Farrell, qui revient de la guerre de 14-18 avec un bras en moins. On sait que sa femme est morte par la grippe espagnole. Donc, on sent que Burton a voulu mettre un petit peu de social là-dedans avec le gentil directeur de cirque, le méchant. C'est très traditionnel, ça fonctionne pas très bien, il faut bien dire ce qu'il est.
Allez Florence, je sais que tu l'as aimé, vas-y, rame un petit peu maintenant.
Ben, oui, voilà, je vais ramer, mais bon. Ben, moi, je l'ai trouvé très émouvant déjà, j'ai été vraiment très touchée, et non, je ne l'ai pas trouvé enfantin, je m'attendais à quelque chose de très très enfantin, et au contraire, j'ai trouvé qu'il pouvait parler à tout le monde. J'ai trouvé que le scénario était bien construit, que l'histoire avec la famille apportait beaucoup au film par rapport à la petite souris dans le Disney classique. Et après, j'ai trouvé aussi qu'il s'était bien fait plaisir, la Tim Burton, à détruire des parcs d'attractions. Et justement, on peut le sentir, ces petites tensions avec Disney, parce que le monde qui détruit, c'est vraiment celui de Disney dans le film. C'est ça qui est sympathique aussi. Les personnages, ils ont quand même aussi ils ont une complexité. Eva Green a un rôle multifacette. On ne peut pas comme ça les appréhender du premier coup, à deviner vraiment comment ils sont. Il y a quand même une profondeur qu'on a rarement dans les films pour enfants. Je trouve qu'on a quand même des surprises. Pour moi, c'était plus poussé qu'un film d'enfant classique.
Certes.
Et puis, il y a aussi donc des belles valeurs, en effet, qui sont développées tout au long du film, que ce soit sur les valeurs du respect des animaux. C'est à charge contre tous les cirques ambulants avec des animaux, également pour les animaux qui sont dans les parcs d'attractions. Donc ça, j'ai trouvé que c'était
Il a mis tellement de choses positives que ça finit par faire trop, quoi. C'est ça, tu vois. Mais
et puis en plus, j'ai trouvé que les scènes, moi, j'ai trouvé qu'elles étaient magnifiques. J'ai trouvé qu'on y croyait justement à cette façon de voler où on sent qu'il est tout lourd, mais en même temps, il arrive à décoller. Et puis il y a des autres scènes, celles notamment avec les éléphants de bulles de savon dans le spectacle, qui sont juste magnifiques.
Oui,
c'est une scène superbe.
C'est vrai, c'est très beau.
Et on sait que, justement, Burton n'a pas voulu faire travailler ou filmer de vrais animaux, et que tous les animaux, même ceux qu'on voit de loin, c'est des bêtes en image de synthèse, même les crocodiles, même les lions, même la mère éléphant. Donc on est parfaitement d'accord avec lui pour le respect des animaux et la fin de l'exploitation des animaux dans des cirques. Néanmoins, c'est un film pour enfants.
Ou pas.
Pas que.
Tout dépend si l'on a gardé.
Ah mais oui,
une
il est quand même adapté aux enfants, heureusement.
Pas trop petit quand même. Hein. Je pense qu'il y a quelques scènes un peu impressionnantes pour des petits. Mais en tout cas, si vous voulez vous faire votre idée sur ce Dumbo de Tim Burton, sachez qu'il est encore programmé au Pathé et à la Nef. On enchaîne avec un film franco-israélo-allemand. C'est synonyme de Nadav Lapid.
Je ne veux pas travailler.
Je suis arrivé en France pour fuir Israël. Fuir cet état méchant, abominable Dieu, lamentable, répugnant, détestable, abruti, étriqué, bas d'esprit, bas de cœur.
Aucun pays n'est tout ça à la fois. Choisis.
Les ducs, les duchesses, les princes, les princesses.
Qu'est-ce que tu vas faire ici ?
Je ne sais pas. Je serai français.
Ça ne suffit pas.
Partir. Repartir.
Pas et ça va. Attends, c'est bon.
Rouler, bien rouler. Surtout en parlant d'une femme. La vie est sublime.
Et la France, la France. Tu connais qui comme français à part nous deux?
Céline Dion. Ne pas relever la tête. Ne pas relever la tête.
En France, personne ne te demande quelle est ta religion. Parce qu'il n'y a pas de religion.
Abjuré, parjuré, abhorré.
Parce que Dieu n'existe pas.
Passez la carte.
Go away, dead.
I'm going away. You won't find me.
Synonyme, cinquième film de Nadav Lapid, après entre autres, vous voulez rappeler peut-être Le Policier en 2011 ou L'Institutrice en 2014. Il s'intéresse là à l'histoire de Yoav, un jeune Israélien qui vient vivre en France, à Paris, fuyant son pays, Israël. Film que je n'ai pas vu, mais sur lequel je vais laisser la parole à Adrien et Jean-Pierre. Adrien.
Je suis très embêté par ce film-là, parce que comme j'avais été avec Foxtrot, je dois avoir un problème avec le jeune cinéma israélien en ce moment, parce que dans le fond, je suis tout à fait d'accord, mais dans la forme et dans la manière dont les propos étaient dit dans ce film, j'ai été irrité, mais vraiment, enfin, c'est un des films que j'ai le plus détesté et qui m'a le plus irrité que j'ai vu de toute ma vie. J'ai trouvé ça vraiment dégueulasse, la manière dont c'est monté. Pourtant, il y avait tout pour me plaire, notamment une scène de casting de film porno assez épique en plan séquence qui est juste hallucinante et où l'acteur fait des trucs hallucinants, ce qu'on ne voit pas d'habitude dans les films français. Une critique sans concession et au vitriol de l'État israélien. Mais le problème, c'est que Nadav Lapid, on dirait dans les scènes de fin, parce que le héros va demander la nationalité française et il va y avoir les cours d'éducation civique qu'il y a aux nouveaux arrivants, on dirait qu'il met dos à dos la société française et la société israélienne. Et moi, ça me dérange pas que des étrangers critiquent la société française, hein, quand Haneke le fait dans Caché ou dans Happy End, c'est très très bien fait. Mais là, c'est vraiment d'une manière manichéenne. Voilà, même Disney est moins manichéen que ça, quoi. Et il y a des scènes au milieu de tout ça, nouvelle vague, on comprend pas pourquoi, avec Quentin Dolmer et une autre actrice qui sont pourtant des très bons acteurs, mais qui jouent la caricature de la caricature de la caricature de la nouvelle vague. C'est juste affreux. Et j'ai trouvé ça détestable et irritant comme film. Et la fin, mais enfin débile, quoi. Le mec il déteste Israël, il critique son état et il va faire vigile à l'ambassade d'Israël. Pareil, on nous promet des choses, notamment des combats de rue entre membres du Bétard. On les voit pas, c'est hors champ. Bref, tout ce qui aurait été passionnant est hors champ. Bref, j'ai un gros problème avec ce film. J'aimerais bien le revoir pour voir ce que j'ai raté.
Oh bah non, quand même pas.
Adrien et Mazo, il veut revoir les films qu'il mais déteste.
Ça m'a vraiment fait du mal, quoi. Vraiment, vraiment, vraiment.
Jean-Pierre.
Ben oui, ce film pose plusieurs problèmes, des gros problèmes, étant le premier étant celui qu'on ne sait vraiment pas trop où veut en venir Nadav Lapid, entre la critique d'Israël, la critique de la société française. Ce qui est d'autant plus curieux, que c'est un film qui paraît très autobiographique, parce que c'est sa vie. Effectivement, il est venu en France, il a tenté de s'intégrer, il n'y est pas arrivé, et il est reparti en Israël, qui détestait tant. Là, déjà, on ne comprend pas trop pourquoi. Et l'autre problème de ce film, c'est quand même l'acteur principal, alors qui s'appelle Tom Mercier, c'est son premier rôle. Il paraît que Nadav Lapid l'a choisi enthousiaste après avoir fait un casting d'enfer. Alors, c'est un personnage qui rappelle d'autres personnages d'autres films, le héros qui fait la gueule pendant tout le film. Ça, on a déjà vu ça. Là, c'est extrêmement irritant. Il est à la fois prétentieux, il débite des textes de d'auteurs dont on se demande, dont on pense qu'il a étudié effectivement en Israël. Et puis alors il se balade à poil tout le temps. Alors pourquoi, on se demande, il est bien baraqué, il fait 1m.
Peut-être aller le voir, finalement, Florence.
Mais exactement, il fait 1m90, il a la bite à l'air un petit peu érigée tout le temps. Ça peut plaire aux dames et aussi aux hommes. Mais enfin, à part ça, je veux dire, moi, cette séquence effectivement de casting de films porno filmé en plan séquence où le réalisateur lui dit « Allez, tu te mastures, tu te fous le doigt dans le cul », on se demande ce que ça vient faire là. Moi, j'ai vraiment à la fois irrité et détesté ce film dont, encore une fois, on ne sait pas ce qu'il vient faire là, quoi, voilà.
Si, elle s'explique la scène du film porno parce qu'il ne veut plus parler hébreu. Et dans la scène, le réalisateur lui dit parle hébreu en masturbant, oui. Tout ça, voilà. Mais c'est nul, quoi. Enfin, niveau bon. Politique.
Et en plus, il y a effectivement ce côté faux nouvelle vague qui lorne sur Eustache, sur Godard, avec ce couple de bobos là qui est bon.
Bon, il va falloir que je les coupe. On prend du retard dans.
Ah, mais on est énervé, on est énervé.
Bon, à la fois vous nous intriguez, à la fois vous nous donnez pas du tout envie d'aller le voir, oui, et ça tombe bien car il est sorti de l'affiche. C'est synonyme de Nadav.
Enfin, la justice.
Allez, on enchaîne avec une comédie sociale française, c'est La lutte des classes de Michel Leclerc.
Pourquoi je peux pas y aller à Saint-Benoît si tous mes copains ils y vont ?
Je te dis que le privé tu vas pas aimer, c'est tout propre, c'est tout net, t'as rien qui dépasse.
Ouais,
c'est...
Ça a l'air bien ?
Mais non, je te dis.
Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que tu foutais là, Adama ?
Alors, les enfants, les dames de la cantine voudraient savoir qui est en situation d'arabie pigmentaire à propension musulmane.
Bon, qui mange du cochon ?
Il était malade ce matin, Milo ? En fait, on l'a enlevé de l'école pour le mettre à Saint-Benoît.
On veut ce qu'il y a de mieux pour nos gosses, quoi, c'est normal.
Bon, écoutez, Laurentin, c'est le seul de la classe.
Le seul quoi ?
Le seul blanc.
Tu me dis ça à moi en plus ?
Oui, mais la mixité, il faut que ce soit de la mixité, il faut que ce soit de la mixité. Si ça n'est pas de la mixité, ça n'est pas de la mixité, tu vois ?
Voici Saint-Benoît, notre protecteur. Mais l'école est aussi accessible aux non-croyants.
Alors moi, je suis avocate et lui est musicien professionnel.
Et je vois que vous avez fait un clip.
Ah non, non.
C'est comme s'il n'y avait plus d'école pour des gens comme nous. Hein.
Tu supportes personne, tu fous de la gueule de tout le monde, tu crois en rien. T'as encore tout fait foirer avec tes principes de merde.
Nos enfants, ils ont vachement besoin de nous. Ils vous reprochent pas vos absences, Corentin ?
Enfin, madame, j'ai un gamin qui ne va pas bien, là, vous comprenez pas ? Je suis un père de merde en ce moment.
Il est bien, il est avec ses copains. Si des gens comme vous s'en vont de l'école, on est foutus, hein.
Bon, c'est-à-dire que personne ne l'encule au sens l'enculé, le pape.
Ouais. Mais il est surtout, voilà, il est surtout à la batterie.
Voilà, puis les paroles aussi sont
c'est pas...
Les paroles.
On rit encore en entendant la bande-annonce parce qu'on se repasse les séquences, on revoit les images de La lutte des classes de Michel Leclerc, donc son 5e film. Après, entre autres, sur des thèmes similaires, Le nom des gens et Télé Gaucho. On le connaît pour son engagement à gauche, mais il faut dire qu'il aime bien aussi en faire la critique de cette gauche caviar, de tous ces gens qui ont des grands idéaux, mais qui parfois se retrouvent en contradiction avec eux, comme le couple incarné par Leïla Bekti et Édouard Baird, qui emménagent dans une petite maison de banlieue parisienne plutôt défavorisée. Sauf qu'eux ont réussi, elle est avocate, elle est de ce milieu-là, mais elle en est sortie. Lui est batteur punk rock, donc tous les deux ont des grands idéaux de gauche, jusqu'au jour où leur fils, qui est dans l'école du quartier, donc école mixte, se retrouve, comme le dit Édouard Baird dans la bande-annonce, à être presque le seul blanc, parce que tous les parents de tous les élèves d'origine française du quartier les ont mis dans le privé, trouvant que l'école publique se dégrade. Donc eux essayent de résister jusqu'au bout et de laisser leur fils dans le public, mais ils se rendent compte qu'il perd ses copains, qu'il est un petit peu en souffrance. Donc voilà, c'est un film avec un vrai sujet de société, hein, cette question de la mixité sociale à l'école, et qui en même temps est une franche comédie avec des scènes vraiment très très drôles. Moi, j'ai beaucoup ri devant ce film, j'ai adoré Édouard Baird dans un rôle, je trouve, assez différent de ceux qu'il a d'habitude, en punk un petit peu lourd parfois, mais très attendrissant aussi. Leïla Bekti est très bien, enfin bref, c'est un de mes coups de cœur du mois. Adrien ?
Ah, j'ai adoré ce film, du coup c'est très très drôle, mais à chaque fois, chaque gag appuie sur là où ça fait vraiment mal, notamment la scène du jardin partagé au début, quand du coup c'est un peu un film à sketch où il y a tous les clichés des bobos de gauche, notamment je tiens à tirer mon chapeau au décorateur qui a décoré l'appartement de Leïla Bekti et d'Edouard Baird de manière mais tout y est quoi, l'affiche de Wolinski sur la laïcité, un poster de Frank Zappa, bref la totale, c'est génial, et aussi dans les situations c'est vraiment très bien écrit, et notamment cette scène du jardin où quelqu'un va expliquer à une nouvelle adhérente les règles du jardin partagé, elle lui dit on fait ce qu'on veut sauf qu'on plante pas ça, on n'utilise pas ces outils là, et la personne lui répond oui on fait ce qu'on veut en fonction de vos règles, et ça c'est typiquement un truc qui se passe dans les milieux d'extrême gauche régulièrement, et j'ai trouvé qu'il appuyait tout le temps où ça faisait mal, et notamment le personnage de Leïla Bekti très angélique, c'est tout moi quoi, quand elle invite une famille musulmane à la maison, elle met le porte-manteau devant l'affiche pour pas devant l'affiche de la couverture de Charlie Hebdo sur la laïcité pour pas qu'on la voie. Ensuite, quand elle va voir une mère pour dire à son fils qu'il arrête de dire au fils de Leïla Bekti que s'il continue à dire qu'il ne croit pas en Dieu, il va aller en enfer, elle croit que la mère va être conciliante, très attentive, et va dire « oui, je vais dire à mon fils d'arrêter de dire ça ». Et là, la mère dit « mais oui, il a tout à fait raison, mon fils, vous aussi, si vous ne croyez pas, vous allez en enfer ». Et là, j'étais mort de rire, ça pique, ça appuie ou ça fait mal, c'est pas du tout angélique, tout le monde dit que c'est plein de clichés comme film, moi je trouve pas du tout, c'est très juste, c'est très bien écrit.
On est bien d'accord.
Et c'est vraiment génial, mais voilà, peut-être que les gens, les critiques
qui
disent ça...
Et c'est pas bien pensant, parce que
justement, c'est pas bien pensant du tout,
la scène que tu racontes en est bien la preuve.
Voilà, c'est super, quoi. Il faut voir les films de Michel Leclerc, et dans la lignée du nom des gens, de Télé Gaucho, c'est vraiment énorme, voilà.
Florence.
Bah, je vous suis aussi, hein, ah. Puis j'ai trouvé que c'était très bien, parce qu'ils abordent tous les sujets bien glissants de notre société, et ils y vont, franchement. Donc, même si c'est plutôt dangereux, au sens où ils peuvent vite faire des dérapages, mais voilà. Ils y vont, et ça passe bien. Je trouve que tout passe, tout est bien. On voit bien le point de vue de chacun. On voit aussi les limites de chaque argument, parce que on peut avoir affaire à des gens qui ont des avis qui sont tranchés et qui n'en changeront pas. Et le dialogue n'est pas toujours possible. Et ça, c'est bien aussi de le mentionner. Donc voilà, c'était voir l'idéologie qui se confronte à la réalité.
Ouais,
c'est ça que j'ai trouvé vraiment intéressant. Après, sur la fin, ça part un peu en absurde. Ça, c'est un peu dommage. Ça n'avait pas besoin de ça, j'ai trouvé.
Ouais. Après, ça ne m'a pas forcément gênée, moi.
Mais ça ne m'a pas plus gênée que ça, mais c'est dommage.
Ouais, enfin, c'est une petite séquence.
Ouais.
Qui est un petit peu fantaisiste. Ouais.
Mais en tout cas, je trouve que globalement, c'est un film
dommage,
qui...
Dommage, parce que je n'ai pas l'intention d'y aller.
Si Jean-Pierre l'avait vu, vous l'aurez raconté. Mais...
mais voilà, mais c'est un film qui se fait se questionner. On se demande ce qu'on fera à leur place, parce qu'en effet, est-ce qu'on imposerait, nous, nos idéaux à nos enfants ou pas? Tout ça, j'ai trouvé que c'était vraiment très bien amené.
Eh bien, écoutez, c'est un 3 sur 3 pour La lutte des classes de Michel Leclerc que nous vous conseillons vivement et qui passe encore au cinéma Le Club. Changement de genre avec le film de l'israélien Sameh Zoabi, Tel Aviv on Fire.
C'est marrant, toi.
T'as ta sauté chez Tel Aviv, Olesh?
Quoi?
Est-ce que t'as dit que tu es venu à
la maison? Non, je suis venu
à la maison. Pas mal, mais tu as dit que tu es venu à la maison. Je suis venu à la
Salam, tu es venu à la maison. Tu es venu à la maison. Tu es venu à la maison.
תקשיב לי טוב, יהודה הוא אלוף בצהל. הוא צריך להיות גבר, הוא צריך להיות רומנטי, הוא צריך להיות ג'נטלמן.
אפשר?
כתבתי לך זה כמו שצריך.
טוב, מה אתה רוצה? נתחייך?
אה.
בסנט המושקיל. בתפדל אל-ואג'ב על אל-חוב. ובתפג'ר נפשה, ובתפג'רו מעה. אני סרגתה מן הוליווד שהיו.
لما الواحد بصير كاتب بصير عنده مسؤولية بالنسبة للشعب.
Tel Aviv on Fire de Sameh Zoabi. Donc, j'ai dit une bêtise, je crois que c'est un réalisateur palestinien, j'ai dit israélien, oulala. C'est son troisième film, le deuxième sorti en France après Téléphone arabe qui était sorti en 2012. C'est l'histoire de Salam, 30 ans, qui vit à Jérusalem, qui est palestinien, qui est stagiaire sur le tournage d'une série arabe à succès, Tel Aviv on Fire. Donc, tous les matins, il doit traverser un checkpoint pour aller de chez lui à son travail. Un jour, il se fait arrêter par un officier israélien qui est fan de la série Tel Aviv on Fire. et qui va l'utiliser pour en faire changer le scénario. Donc voilà, c'est vraiment une comédie qui n'est pas directement sur le conflit israélo-palestinien, même si à travers cette série, on entend quand même un petit peu parler, qu'on voit vraiment quelles sont les dissensions entre les deux peuples. Mais c'est aussi un film sur les soap opéras, sur les séries, donc sur la manière dont c'est tourné, la manière dont s'écrivent les scénarios, les stars qui font bien leurs stars parce qu'ils veulent qu'on leur écrive telle ou telle scène, mais les stars aussi qu'on fait mourir parfois dans la série parce qu'elles commencent à devenir gênantes. Enfin bref, moi je l'ai plus pris comme une comédie sur ce sujet-là et ça m'a plutôt plu. J'ai pas trouvé ça extraordinaire, mais j'ai passé un bon moment. Par contre, si on y va pour voir vraiment un film sur le conflit israélo-palestinien, je pense qu'on est déçu. Mais bon, je trouve ça bien aussi qu'aujourd'hui un réalisateur palestinien ou un réalisateur israélien puisse faire un film sur un autre sujet que ce conflit. Florence.
Eh bien, tout à fait. J'ai trouvé que c'était très léger, justement, et j'ai trouvé l'approche vraiment très originale. Et voilà, voir cet interprète qui se retrouve parachuté dans un rôle de scénariste et qui gère pas du tout, enfin, c'est assez rigolo, justement. On le voit se dépatouiller, à devoir devenir scénariste, qui est quand même pas... Enfin, ça s'improvise pas, donc voilà. Et j'ai trouvé que, en effet, c'était très bien que les sujets politiques soient en toile de fond, mais que ce soit vraiment pas au cœur du film. Et d'ailleurs, on voit même que dans le soap, ils sont vraiment plus à piocher des idées du côté d'Hollywood. Enfin, vraiment, c'est ça qui était sympa, quoi. Ça fait une grande déconnexion.
Alors, deux avis plutôt positifs sur Tel Aviv on Fire. Jean-Pierre, ben,
j'aurais aimé voir le film que vous décrivez, mais moi, j'ai trouvé que c'était léger, je ne sais pas. C'est plutôt inconsistant parce que malheureusement, je trouve quand même assez bizarre qu'un réalisateur palestinien, même tournant un comédie, soit aussi gentil avec Israël, avec les checkpoints, avec les soldats israéliens. Parce que je ne sais pas si on voit un petit peu ce qui se passe quand on veut passer un checkpoint. Ce n'est pas tout à fait ça. Et à la fin, je suis désolé de dire la fin, mais le capitaine israélien quitte l'armée pour devenir comédien. Je veux dire, moi, j'y crois pas un seul instant. Il y a une seule séquence toute petite qui est assez drôle. D'ailleurs, ça tient en deux mots. C'est quand la première fois où le jeune Israélien passe le checkpoint, il parle d'une femme, il dit « c'est une bombe ». Alors, il entend le mot « bombe », il l'arrête pour ça. C'est la seule astuce de cette comédie qui est très raplapla et qui est effectivement, malheureusement, filmée avec la platitude du pire des soap-opéras, quoi.
On est d'accord sur le fait que ce n'est pas forcément crédible, mais comme moi je l'ai pris comme une comédie, oui, ça ne m'a pas gênée. C'est donc Tel Aviv on Fire du réalisateur Sameh Zoabi que vous pouvez voir au cinéma Le Club. On repasse à la comédie française, il y en a eu pas mal ce mois-ci avec une comédie qui flirte un petit peu avec la science-fiction, c'est Mon Inconnu d'Hugo Gélin.
Qu'est-ce que t'as, Raph ?
Hein ?
Depuis hier, t'es hyper bizarre.
Ça sert à rien, tu vas me prendre pour un fou.
Dis-moi,
depuis hier matin, je suis plongé dans un monde parallèle où toute ma vie a changé.
T'es con.
Félix, je te jure que c'est vrai. Hier encore, j'étais marié avec Olivia. On était fous amoureux l'un de l'autre. Et puis j'écrivais des best-sellers dans un 300 mètres carrés, je faisais la coupe des magazines. J'étais invité au JT de 20h, j'avais une putain de vie. Et là, je me suis réveillé dans cette nouvelle vie où ma femme n'est plus ma femme.
Olivia.
Elle est devenue une des plus grandes pianistes du monde. Et elle ne me reconnaît plus.
Votre prénom, c'est ?
Raphaël. C'est fou. C'est fou. C'est fou.
C'est ?
Fou.
Fou.
Résume-moi ma vie.
On fait du ping-pong, plutôt bon.
Attends, Félix, ça va pas le faire du tout. Moi, ça fait 1000 ans que j'ai pas joué.
Qu'est-ce que tu fais, là ? T'es pas obligé de me tourner le dos, hein. Je connais ta bite.
Hein, comme ça, tu connais ma bite ?
C'est pas ma meilleure amie, mais oui, je connais ta bite.
Salut, lapin, ça va ?
Et tu préfères baiser tes plans cul dans ta garçonnière ?
Bah, tu viens pas ?
Si.
Bah, viens ?
Ouais.
Par contre, tu sais ce qui me ferait plaisir ? Tu me fasses un petit massage comme autrefois ? Bah non, t'es con ou quoi, les pieds ?
Et oui, c'était les pieds qu'on avait
fait.
Oui. Il faut que tu m'aides à retourner dans ma vie d'avant, Félix. Tu peux faire ça ?
Ok.
Ça y est, je la vois. Qu'est-ce que je fais ?
Bon, écoute, regarde son cœur.
Hein ?
Morgane, quand je l'ai regardé pour la première fois, elle m'a dit qu'elle avait senti comme une flèche.
Mais arrête avec tes flèches, là, ça marche pas, je te dis. Ça marche un peu. Elle me regarde.
Et voilà ! La flèche.
Mon inconnu, c'est le troisième film d'Hugo Gélin après Comme des frères et Demain tout commence. C'est une comédie sentimentale avec un petit brin de fantastique, mais pour moi c'est quand même surtout une comédie sentimentale. Raphaël, le héros incarné par l'incontournable François Civil, que l'on voit partout en ce moment dans le cinéma français, et qui, entre parenthèses, a obtenu le prix d'interprétation au dernier festival de l'Alpe d'Huez pour ce rôle-là. Donc Raphaël, incarné par François Civil, se retrouve du jour au lendemain plongé dans une vie qui n'est pas la sienne, avec quand même en commun son meilleur ami, qui est resté son meilleur ami dans cette nouvelle vie, ce nouveau possible de ce qu'aurait pu être sa vie. Par contre, sa femme n'est plus sa femme, il n'a plus le même métier. Au lieu d'être un auteur à succès qui vit dans un magnifique appartement, il est professeur de français dans un petit collège de banlieue. Au lieu d'être invité partout dans des cocktails, il joue au ping-pong. Et puis, au lieu que sa femme soit la sienne, très jolie, Joséphine Japy, donc, qui l'incarne, et que cette femme soit professeure de piano, eh bien, c'est devenu une concertiste de renom qui fait des tournées internationales, qui n'est plus sa femme et qu'il va essayer de reconquérir. Voilà, le réalisateur dit qu'il s'est inspiré de films comme Eternal Sunshine of the Spotless Mind ou Un jour sans fin. C'est vrai qu'il y a des petites ficelles de ce genre de comédie qu'on retrouve ici avec le personnage qui essaye de reconquérir une femme qu'il connaît déjà à partir des petites choses qu'il sait d'elle. Moi, j'ai trouvé que ça fonctionnait bien déjà parce que je trouve les deux interprètes excellents. Ils sont très charmants, drôles aussi parfois. C'est un film devant lequel j'ai beaucoup ri. Le mois dernier, je trouve quand même qu'on a beaucoup ri devant les comédies françaises et ça fait du bien. Notamment dans les scènes où il est avec son meilleur ami incarné par Benjamin Laverne. Je trouve que ça fonctionne très bien quand ils vont faire leur tournoi de ping-pong alors qu'il ne sait plus jouer du tout, par exemple. Il y a plein de scènes comme ça où le personnage est tourné en ridicule et où on rit de lui, on rit aussi un peu avec lui, c'est jamais très méchant contre les personnages, mais voilà, c'est léger, ça marche bien, c'est frais, on est ému aussi par cette petite histoire d'amour. Moi, je vote pour Jean-Pierre.
Je suis absolument de ton avis, 100% de ton avis.
Une fois n'est pas coutume, Jean-Pierre.
Oh non, mais c'est pas vrai, mais c'est une comédie française, c'est la deuxième que j'aime beaucoup, mais c'est surtout que c'est quand même un vrai thème entre le fantastique et la science-fiction, qui a été traité par de grands auteurs américains comme Richard Matheson ou bien sûr Philip K. Dick, que le cinéma français n'a pas ignoré. Moi, je pense aussi à Jean-Philippe, hein, qui est un film où Johnny Hallyday n'est plus célèbre, ou K.O., plus récent, où c'est encore un homme qui est translaté dans un monde qui n'est pas le sien. Et c'est vrai que c'est un thème très riche qui peut donner lieu à des tas de variations, et qui là est effectivement traité de manière plutôt légère. C'est une comédie sentimentale, oui, mais c'est des vrais personnages en même temps. Ils sont tous bons, surtout effectivement le copain joué par Benjamin Laverne, qui est de la comédie française, qui est vraiment hilarant parfois. Il y a de l'émotion à la fin, je ne vais pas la dire la fin, mais c'est vrai qu'il y a un peu d'émotion. Tout fonctionne parfaitement bien. Pour moi, c'est vraiment mon coup de cœur du mois.
Eh bien écoutez, nous recommandons Mon Inconnu d'Hugo Gélin, que vous pouvez voir au Pathé ou à la Nef. Allez, on finit avec un film allemand sur un sujet historique, c'est Le Vent de la Liberté de Michael Bulli-Herbig.
Damit fliegen wir in den Westen.
Aber was, wenn die Soldaten auf uns schießen?
Ja, wir müssen höher. Durch die Wolken.
Meter weiter und die wären drüben gewesen. Die wären dich schön in den Arsch gebissen haben.
Den gesamten Umkreis von 500 Metern absuchen. Ich will, dass auch der kleinste Fetzen dokumentiert wird.
Günther, die Stasis hinter uns her. Die geben keine Ruhe, bis die uns geschnappt haben.
Wir könnten doch nochmal einen Ballon bauen.
Wenn ihr mitmacht, dann können wir es schaffen, das weiß ich.
Das Risiko ist zu groß. Das wird nicht funktionieren.
Peter, was ist dein Papa vom Beruf?
Mein Papa ist näher.
Was näht er denn da?
Darf ich nicht sagen.
Aber mir darfst du doch alles sagen.
Können wir kurz reinkommen?
Le Le vent de la liberté, cinquième film de Michael Bulli-Herbig. Le réalisateur allemand s'est là intéressé à un fait divers, une histoire vraie. Deux familles d'Allemagne de l'Est se sont enfuies en Allemagne de l'Ouest dans une montgolfière artisanale construite par les deux pères de famille, donc le 16 septembre 1979. Ils ont volé 28 minutes dans cette montgolfière artisanale, ils ont parcouru 18 km et ont atterri donc de l'autre côté de la frontière. C'est un film qui m'a beaucoup plu, déjà parce que c'est une histoire un peu incroyable, on suit la confection de cette montgolfière, mais aussi parce que j'aime beaucoup les films qui se passent dans ce contexte de guerre froide et notamment dans tous les pays de l'Est où on voit vraiment cette surveillance constante de la Stasi. Donc c'est un film qui est aussi un très bon thriller, hein, où on est tenu en haleine du début à la fin parce que les deux familles sont traquées. Et même si on connaît le dénouement, je trouve que ça fonctionne bien. Jean-Pierre ou Florent?
Je suis encore une fois tout à fait d'accord avec toi, tu vois bien. Oui. C'est un très bon film politique, effectivement, historique à la fois, qui est tiré d'une histoire vraie, donc on peut dire la fin, même si on ne peut pas le dire. En plus, il est très beau quand on voit ce ballon multicolore s'élever dans la nuit, comme une espèce de baudruche là, rayonnante. C'est vraiment très très beau. Moi, je trouve le seul léger reproche que je peux faire, c'est que peut-être parce qu'on connaît l'histoire, mais je trouve que le suspense fonctionne pas absolument bien. Notamment, le film aurait pu être plus détaillé sur le personnage du capitaine de la Stasi, qui est un personnage qu'on sent assez étrange, assez incertain. Je pense que le personnage aurait été plus fort s'il avait été mieux fouillé. Peut-être. Mais n'empêche que c'est un très bon film, une très belle aventure qu'on suit effectivement avec un très très grand plaisir. Oui.
Est-ce que Florence sera de notre avis ?
Eh ben oui, tout à fait. Donc le film est très très classique, mais il fonctionne très bien. Et moi j'étais accrochée à mon fauteuil, j'étais morte d'inquiétude là en les voyant faire. Et puis j'ai trouvé aussi que le climat de suspicion ambiant était vraiment très très bien mis en avant, parce qu'on ne sait pas si on voit des gens normaux, si c'est la Stasi en civil. Enfin, mais on est tout le temps angoissé en regardant rien que la tête des gens où tout le monde s'observe. Je pense que même le héros, il doit passer pour quelqu'un comme ça aussi, parce que lui aussi observe. Enfin bon, bref. Et c'était vraiment bien fait, quoi. J'ai trouvé que c'est un film à voir. En tout cas, vraiment, moi, je vous le conseille également.
Eh bien, écoutez, on vous le conseille tous les trois, Le vent de la liberté de Michael Bulli-Herbig, qui passe encore au Méliès. D'ailleurs, l'histoire avait été filmée, avait été produite par les studios Disney en 1982.
Voilà, oui.
C'était la nuit de l'évasion. Disney avait acheté les droits à vie de l'histoire et puis le réalisateur a réussi à négocier, à les obtenir. Donc voilà pour la petite anecdote. En tout cas, vous pouvez aller voir donc ce film allemand dans les salles en ce moment. Jean-Pierre et Adrien, très rapidement, donnez-nous vos coups de cœur. Jean-Pierre.
Oui, c'est Compagnie Rose d'Alvaro Brechner, un film uruguayen qui voit trois prisonniers politiques, des Tumpamaros, jetés en prison. Ça va durer 12 ans, on leur fait pique-pendre. C'est vraiment un film très 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 oppressant qu'il faut absolument voir s'il se joue encore, mais ça je ne sais pas.
Je crois qu'il passe encore au Méliès.
Il passe encore, oui. On sort là stressé pareillement à ce qui nous était arrivé quand on est sorti du Fils de Saul. C'est deux films que je mets ensemble.
Adrien.
La Flore, le film très court de 13h30 en quatre parties de 3h30 chacune. Vraiment un plaisir, un bonheur qui ouvre tous les possibles du cinéma. C'est merveilleux et à la fin, on s'en dit, on n'en a pas encore assez. C'était incroyable de vivre ça.
Mais tu vas le revoir, bien sûr.
Ah oui, j'aimerais beaucoup le revoir d'un coup.
Je crois que l'une des parties du film, puisqu'il est en quatre parties, comme tu disais, passe encore au Méliès également. Merci à vous tous d'avoir été là et rendez-vous à la fin du mois de mai. En plus, on parlera du Festival de Cannes. Merci à vous tous de nous écouter. On se quitte donc et rendez-vous le mois prochain sur Radio Campus Grenoble.
Attention, ce film n'est pas un film sur le cyclisme. Merci de votre compréhension.
Du suspense. De l'émotion. de l'humour. Sine qua non, du cinéma, sinon rien.